terminer aujourd'hui la grande chronologie de l'humanité. Je vais recommencer avec ce temps de l'innocence, etc. Et la semaine dernière, nous avions vu ce temps qui va durer 7 années, que j'ai mis là en jugement.
Certains parleront plutôt de grande tribulation. Alors ça dépend comment on voit les choses. Bien sûr, c'est une grande tribulation, une grande période de souffrance. Peut-être que le mot générique aurait pu être souffrance. Souffrance pour ce monde qui connaît un jugement. À force de vouloir refuser Dieu, bah Dieu les livre à eux-mêmes. Et c'est en ce sens-là qu'une sorte de jugement. De souffrance, parce que le monde sera vraiment dans une situation... De tribulation, parce que le monde sera dans une période de souffrance. Et donc, on a vu que cette période, on reverra, je vous ai fait un autre graphique tout à l'heure, s'échelonne, se trouve entre deux échelons, celui de l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Ces deux événements, enlèvement de l'Église et retour de Jésus, enfin le retour visible de Jésus, c'est ce qu'on appelle l'avènement. Alors, on reverra ça si vous voulez plus tard, mercredi après mercredi, on verra des points plus précis tels que représente la parousie, que représente la femme poursuivie par le dragon, qui sont les deux témoins. On pourra après prendre point par point, ce qui nécessite à chaque fois une explication plus précise, et puis ça permettra un peu d'éclairer. Mais en tout cas, ce que l'on voit là, ce sont des événements sûrs. Pourquoi est-ce que les autres fois on sera bien plus prudent? C'est que il y a beaucoup d'interprétation, d'approche, et on peut pas dire c'est comme ci, c'est comme ça. Par contre, tout ce que l'on voit, ça c'est une certitude. La Bible nous parle que les chrétiens, nous serons transformés et enlevés dans le ciel, et il nous est parlé que tout œil verra Jésus descendre du ciel, poser le pied sur le mont des Oliviers, ce mont s'ouvrira, et là, il va arriver donc, on arrive à un autre événement qui est écrit en haut. Millénium. Alors ce mot-là, millénium, n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on a donné ce nom de millénium? Millénium, ça veut dire mille en latin. C'est que dans l'Apocalypse, chapitre 20, il nous est parlé de cette période de 1000 ans. Et dans à peu près sept versets, au moins 6 fois, il est nommé que ça durera 1000 ans. Voilà, donc c'est pas un chiffre fictif. Pour que la Bible insiste sur une période de 1000 ans, c'est qu'on peut prendre au sérieux cette période de 1000 ans, comme il nous est parlé des 7 ans, 3 fois 2 ans et demi. Alors, le millénium est également compris entre deux événements majeurs. Donc, il commence avec le retour de Jésus, physique sur Terre, visible en tout cas. Et il s'achève, alors ça c'est une référence que l'on trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, 1 Thessaloniciens 3, 13, donc ça c'est Jésus qui descend, et ce millénium s'arrêtera avec un événement que j'ai appelé destruction, mais plus précisément, destruction du ciel et de la terre. Il y a un petit créneau de temps là, qui n'est pas fait mention, mais on va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui caractérise le millénium? La destruction du ciel et de la terre, on appelle ça, on trouve ça aussi en Apocalypse chapitre 20. Ce qui caractérise le retour et le temps du millénium, c'est le règne de Christ sur terre. Mais avant de parler de ça, rappelons-nous que là on est au dernier pulse du grand tableau de Jésus, hein. Et il faut se rappeler, alors là, c'est la bande est écrite ici, en dessous, là. On avait dit que la révélation de Dieu est progressive. T'inquiète si on ne la voit pas. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit. C'est que si Dieu a fait les étapes les unes après les autres, c'est qu'une étape nous permettait de comprendre la suivante. Nous ne sommes pas partis du jardin d'Éden au millénium comme ça. Il y a eu des étapes formatrices, des étapes pédagogiques. Et là, je voudrais juste vous lire deux passages. Le premier, vous allez me dire à quelle période cela vous rappelle. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Est-ce que c'est fait? Je te bénirai. Est-ce que c'est fait? Je rendrai ton nom grand. Est-ce que c'est fait? Et une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et à plusieurs circonstances de l'histoire, on l'a vu. Et rappelez-vous ce qu'il avait été écrit. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ça, c'était en Genèse 12. Dieu a de la suite dans les idées, ne l'oubliez jamais. Dieu avait donné cette promesse-là. Et rappelez-vous, le peuple qui a vécu avec cette perspective, avec cette vision, ça a créé une identité au peuple. On se rappelle de ça. Et je continue. Exode, chapitre 19. Alors 19, c'est juste avant 20, hein, c'est un indice. Rappelez-vous ce qu'on avait lu. Maintenant, si vous écoutez ma voix, conditionnel, hein, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi, Exode chapitre 19, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et c'est au verset 8, donc juste après, 2-3 versets après, que le peuple dit tout entier, oui, nous ferons ce que l'Éternel nous a dit. Et c'est de là qu'il y a le chapitre 20, où Dieu donne des lois. Si vous faites ce que je vous demande, vous serez une nation sainte, vous serez un peuple de sacrificateurs. Je ne sais pas si le peuple avait réellement compris sa vocation. Mais on le comprend maintenant avec le recul. Quand Dieu dit à la nation d'Israël, vous serez une nation parmi les autres, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans une conversation à part, la notion de sainteté, c'est mise à part pour servir Dieu. Et ça, Dieu l'avait prévu dans la promesse, dans la loi. Il y avait une perspective dans le plan de Dieu. Par contre, la condition n'avait pas été appliquée par le peuple. Si vous gardez mon alliance, et on sait que c'est là le problème du peuple juif, c'est qu'ils n'ont pas gardé l'alliance. Ils n'ont pas gardé. Alors il y a eu la période de la grâce, tout ce temps de tribulation. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que là on va parler du millénium, mais dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de références sur ce temps du millénium. Ce millénium, c'est un temps où la terre est dirigée par Dieu au travers de son peuple d'Israël. Et si Dieu en parle dès la Genèse, dès l'Exode, il en parle à plusieurs reprises, par la bouche des différents prophètes. Et ça, c'est nous, on a un petit peu du mal à réaliser la chose, mais le peuple juif vivait dans cette perspective de vivre ça, de vivre ce millénium, de vivre avec un règne directement divin qui passerait au travers d'eux. Et quand Jésus est venu la première fois, c'est ça qu'ils attendaient. Pour eux, le Messie, c'était celui qui allait enfin instaurer ce règne divin au travers d'eux. Et c'est là qu'on comprend mieux la phrase de disciples d'Emmaüs en Luc chapitre 24, verset 21, quand ils sont tous dépités et qu'ils disent « Mais nous espérions que ce soit lui qui délivre Israël. » Et tout s'écroulait. Même les disciples, rappelez-vous, ils étaient tous dépités. Même s'ils ne comprenaient pas la stratégie politique de Jésus, en fait, hein. Même s'il ne comprenait pas vraiment comment il faisait les choses. D'ailleurs, Pierre, il a été honnête. Tu as les paroles de la vie éternelle, quoi. Voilà. Et vous, pourquoi vous ne voulez pas me quitter? Bah, tu as les paroles de la vie éternelle. À quel autre irions-nous? Ils étaient pas, ils comprenaient pas du tout le plan de Jésus, mais ils pensaient que c'était lui le Messie. Mais voilà que le Messie, il meurt. Parce que la conception des Juifs pendant toute la période, là. D'ailleurs, jusqu'au retour de Jésus, toute la conception des Juifs, c'est que le millénium ils l'attendent depuis le début, depuis le commencement. Et quand on parle de millénium, c'est ce temps de règne directement divin où Dieu règne sur la terre au travers. Et ça, ce n'est pas un mythe. Ça fait partie d'une multitude de références dans l'Ancien Testament. Et les Juifs sont dans cette attente. Alors, qu'est-ce qui caractérise le millénium ? Premier point, je dirais que ce qui caractérise le millénium, c'est la présence glorieuse du Seigneur. Alors pour ceux qui prennent des notes, Zacharie chapitre 14 verset 4, Ésaïe chapitre 11 verset 10, Apocalypse chapitre 1 verset 7, ce ne sont que quelques références. Je sais que ça ne sert à rien que je vous en donne 10, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une multitude de références. Quand Jésus viendra, tout œil le verra. Ça, c'est une évidence. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y aura le deuxième point, qui sera la conversion d'Israël. Une fois que le Messie descend du ciel, qu'il réalise que celui qu'ils ont percé, ah, mais c'était lui ! On a passé, on a loupé quelque chose. Mais maintenant, il y a la conversion d'Israël. Et les Juifs deviennent à partir de là ce qu'ils auraient eu depuis le commencement. Ils vont devenir le peuple au service de Dieu. On peut lire par exemple Ésaïe chapitre 66 verset 19. Ils publieront ma gloire parmi les nations. Ésaïe 61 verset 6. Mais vous, en parlant d'Israël, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Et en fait, pendant ce temps du millénium, Israël va remplir sa vocation, qui est celle d'annoncer le salut en Jésus-Christ à toutes les nations. On va revenir. Quelle est la troisième caractéristique du millénium ? C'est que Satan est lié, il est empêché de séduire les nations. Ça se trouve en Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 3. Satan ne peut plus agir sur la terre. Voilà. Il n'est plus là pour pousser les gens, il n'est plus là pour envoyer les gens dans le mensonge. Il n'y a plus l'action, il n'y a plus l'influence de Satan sur cette terre. Ainsi, autre caractéristique, le Seigneur règne sur la terre, mais il ne vient pas tout seul. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 nous dit que le Seigneur descend avec ce qu'on va appeler l'Église qui a été enlevée. Il nous est parlé en fait de ceux qui ont eu part à la première résurrection. C'est ce mot-là qui est employé. Qu'est-ce qui ? Alors, comment comprendre la chose ? En fait, Christ va régner, il sera le directeur général, le président mondial, et nous, parce que c'est ça, c'est l'Église, les rachetés, nous serons comme ces ministres. Et sur la terre, il y aura des ambassadeurs, ce sera le peuple juif. Vous comprenez un peu l'image ? Alors comment ça va se passer ? Alors on ne va pas non plus extrapoler les choses, il n'y a pas forcément plus de détails, mais on peut le comprendre quand même. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous serons enlevés, lorsque l'Église sera enlevée, et que les morts en Christ, ceux qui seront morts avant nous, ressusciteront un petit peu avant nous, et qu'on sera tous enlevés en même temps, il nous est dit que nos corps seront transformés en un corps glorieux, et il ressemblera au corps des anges. Les anges, ils existent ? Ils habitent où ? Chez vous ? Non. Ils habitent dans les lieux célestes. Et on sait aussi qu'ils interviennent sur terre. Et même ils peuvent prendre une apparence tout à fait humaine. Et donc la position que nous aurons en régnant avec Christ sera la position de ces anges. C'est que nous serons à la fois dans une dimension, une capacité à vivre dans le céleste, mais une capacité aussi comme les anges à intervenir dans les choses terrestres. Vous comprenez comment cela est possible ? Le cinquième point, la cinquième caractéristique du millénium, c'est l'atmosphère de ce règne. Il nous est parlé de paix, de justice, d'égalité pour tous les hommes. Mais il faut comprendre une chose. c'est que ce ne sera pas le paradis. Ce sera une théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu, Théo, qui gouverne. On disait tout à l'heure que la mission du peuple d'Israël, ce sera d'annoncer aux nations le salut en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que si effectivement Satan ne peut plus agir parce qu'il est retenu, il est lié, malgré tout, ce n'est pas pour autant que le cœur de l'homme va se convertir. Nous sommes tous ici conscients que la conversion, c'est une démarche personnelle qui appelle à la repentance, à la volonté de suivre le Seigneur Jésus, qui, par une puissance surnaturelle, celui de son esprit, fait de nous des nouvelles créatures. Et ce n'est pas parce qu'on vit dans la paix, rappelez-vous du jardin d'Éden, ce n'est pas parce que ça va être la prospérité, la paix, l'égalité, que le cœur de l'homme va forcément se convertir et naître de nouveau. Vous comprenez la chose ? C'est pour ça que la terre connaîtra un temps glorieux. Bah oui, quand c'est Jésus qui est aux manettes, il va certainement faire beaucoup mieux que tous nos grands dirigeants du monde, ça c'est sûr. Mais il faut comprendre aussi qu'il y aura une justice qui va s'établir. Ne croyez pas que tout va devenir beau et rose du jour au lendemain. Tout le monde ne se convertit pas. Et tout le monde ne suivra pas forcément cette inclinaison de paix, de justice, parce que tous les cœurs ne seront pas nés de nouveau. Et il nous est parlé que le Seigneur gouvernera, comme tu l'as dit tout à l'heure avant la réunion, que le Seigneur gouvernera avec une verge de fer. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que tout ne sera pas tout rose ? C'est qu'on ne sera pas tous là, ah, c'est super, tout va bien. Non, c'est faux. Il y aura une justice qui s'établira. Et c'est pour ça, par exemple, en Ésaïe, chapitre 11, verset 4, on lit ces paroles. « Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Il nous a même dit que celui qui mourra à cause de sa méchanceté à 100 ans sera jeune. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une bénédiction d'une longévité de vie, mais il y aura aussi le jugement du méchant. Donc le temps du millénium n'est pas le paradis. C'est un temps de paix, de prospérité, de justice, d'équité. Mais il y aura toujours, malheureusement, le péché dans le cœur de l'homme. Même si Satan n'est plus là pour exercer une pression, le péché demeure génétiquement transmissible d'une nation à une autre, d'une génération à une autre. Et ceux qui vivront au temps du millénium, ce seront nos enfants ou petits-enfants ou futurs petits-enfants, mais on ne va pas leur communiquer notre nature que celle que nous avons, qui est celle d'une nature pécheresse. Alors le temps du millénium, il ne faut pas oublier que ce sera une théocratie, mais une théocratie dure, rigide. Oserons-nous dire sévère ? Dieu, en tout cas, ne tolérera plus le péché sur terre. Et il y aura une justice qui sera faite. Et ça, souvent, on l'oublie un peu, on idéalise un peu le millénium. Alors là aussi, peut-être, bon, je ne vais pas prendre trop de temps, hein, évidemment, mais par exemple, c'est un peu l'image que les témoins de Jéhovah veulent communiquer du millénium. Quand vous les écoutez, tout est beau, tout est rose, c'est limite le paradis sur terre. Mais ce n'est pas du tout la lecture que la Bible donne. Alors, une petite... dans votre lecture personnelle, vous avez sûrement remarqué que dans le Nouveau Testament, quand il nous est parlé du retour de Jésus, c'est pas toujours facile de distinguer ce qui est l'enlèvement de l'Église de ce qui est le retour de Jésus. C'est pas facile, hein, à distinguer. Mais de la même manière que quand on lit l'Ancien Testament, c'est très compliqué aussi de distinguer le temps du millénium du temps de l'éternité. Et on se rappelle d'une chose, c'est que la révélation de Dieu est progressive. Et de la même manière que les apôtres avaient une révélation un peu floue de la notion du retour de Christ par ces deux étapes, de la même manière les prophètes de l'Ancien Testament avaient une vision un peu floutée aussi de cette période du millénium avec ce règne sur la terre et de cette éternité qui est ce règne éternel dans un allez, j'anticipe un peu, dans cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça que ces choses-là sont vraiment à considérer verset par verset et avec beaucoup d'humilité. Un autre point qui caractérise le millénium, c'est que Jérusalem sera la capitale mondiale spirituelle où toutes les nations du monde viendront adorer, en lisant Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4. Donc Jérusalem sera la capitale mondiale. Les gens connaîtront donc une longévité de vie exceptionnelle. Ils connaîtront la joie. Ils connaîtront une prospérité. Et la prospérité sera généralisée. Voilà ce qu'on peut dire sur les caractéristiques du millénium. En rajoutant, je ne l'ai pas dit, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, que ça dure 1000 ans. Alors, que se passera-t-il ? Donc là, c'est pour ça que j'ai mis ensemble règne de Christ. Donc règne de Christ avec l'Église et au travers d'Israël. Et la mission donc d'Israël. Et j'ai marqué dernière séduction. Alors, on va passer à l'autre tableau pour faire la transition.
Benoît ?
Oui.
Par contre, la grâce, ça sera toujours après.
Alors, oui.
Où s'arrêtera la grâce ?
En fait, si on observe un peu le tableau, on s'aperçoit qu'une dispensation n'en efface pas forcément une autre. La conscience, elle fonctionne encore aujourd'hui. Le gouvernement humain, on voit que c'est l'équilibre des choses qui fonctionne comme ça. Mais elle s'ajoute. Les promesses, on vient de le voir actuellement, c'est que ce qui n'avait pas pu être accompli avant commence à s'accomplir. Donc Dieu continue à accomplir ses promesses. La loi, on l'avait vu le soir même, on doit continuer à vivre selon l'esprit de la loi, non plus la lettre. Mais l'esprit de la loi, on doit continuer à la lire. Donc la notion de la grâce, qui est celui que quiconque réalise le sacrifice de Jésus à la croix, se repent de ses péchés et confesse ses péchés et se tourne vers lui, sera sauvé, ça continuera après l'enlèvement de l'Église, parce que le ministère du Saint-Esprit continue d'agir sur toute l'humanité, sur toute la surface, sur tout le cosmos, quoi. Même si un martien se repentait, il serait sauvé. Mais oui. Alors, je ne sais pas s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Mais s'ils existaient, eh ben ça marcherait quand même. Parce que l'œuvre de la croix est faite pour tous les hommes, ok ? Donc la grâce, voilà. C'est pour ça que vraiment, Dieu a une science incroyable dans cette dispensation, parce que étape par étape, il ajoute les choses.
Ça reste encore pouvoir se convertir.
C'est ce que Dieu veut.
S'il y a une grâce,
c'est ce qu'il veut. Alors, maintenant, tu vas mettre l'autre tableau, qui est plutôt une chronologie, qui, j'espère, va vous permettre un peu de simplifier les choses. Ici, nous avons la première venue de Jésus avec la croix, d'accord ? Alors, première venue au sens d'identification de Jésus en tant que tel. Hein ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle des théophanies, ce sont des apparitions de Dieu sous forme angélique. C'est-à-dire que c'était des anges qui se présentaient, mais en fait, c'était vraiment Dieu lui-même. Mais là, identifié, première venue de Jésus. On avait vu qu'il y avait donc l'année de grâce, ok ? Et il y a un changement avec l'enlèvement de l'Église. Ce que j'ai mis en vert, ce que nous avions vu la dernière fois. Il y a pendant 7 ans, grande tribulation ou grande période de jugement, que vous pouvez lire en Apocalypse chapitre 6, verset 18, qui elle s'arrête avec une autre virgule. Le retour de Jésus sur terre avec les saints. Et là, vous avez ces références. Et là, on a vu donc une autre partie qui est le millénium, qui est, vous pouvez y voir une très belle description en Ésaïe chapitre 11 et Apocalypse chapitre 20, qui dure donc 1000 ans. Et donc là, c'est là qu'il y a Israël qui se convertit, qui remplit sa vocation, etc. etc. Et bah, il y a bien une fin à ces 1000 ans. Il y a bien une fin à ces 1000 ans. Alors qu'est-ce qui se passe au bout de 1000 ans ? Apocalypse chapitre 20 versets 7 à 9 nous dit que Satan qui était lié, qui ne pouvait plus agir sur la terre, qui ne pouvait plus influencer le monde, il sera, je lis le textuellement, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre.
C'est-à-dire qu'après 1000 ans, il y a ce que j'ai appelé une dernière séduction.
Le diable est relâché et il a la liberté de séduire toutes les nations. La grande question, elle est, mais pourquoi? Pourquoi? Ben parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas parce que c'est 1000 ans de paix que tout le monde s'est forcément converti de cœur au Seigneur Jésus. Et en fait, cette dernière séduction, cette dernière tentation sera là pour éprouver le cœur des hommes. On l'a déjà vu à la première venue de Jésus. Lorsque les gens suivaient Jésus, lui-même le disait, vous me suivez parce que vous avez été rassasiés de pain. Et quand il était à la croix, personne n'était là pour le garder, pour le protéger. Et il faut malheureusement qu'il y ait cette dernière tentation pour éprouver le cœur des hommes. Pour savoir si l'adoration, parce que il est difficile pour nous de nous projeter dans ce millénium, mais ce sera un temps de paix, de joie, d'abondance. Quelque part, tout sera tellement agréable que, assez naturellement, les gens iront adorer Dieu. Et d'ailleurs, comme la justice sera sévère, parce que Dieu ne tolérera plus le péché, il jugera le méchant. Donc, quelque part, ça canalisera certains les plus virulents. Mais c'est pas parce qu'on est calmé dans notre ardeur de pécheur qu'on s'est forcément consacré au Seigneur et qu'on est sauvé. Et c'est là qu'il y aura une dernière tentation qui mettra en évidence le cœur de certains hommes. Et quand on lit la suite, donc le verset 9 d'Apocalypse 20, il nous est dit qu'effectivement, un grand nombre d'hommes et de femmes se laisseront séduire par Satan et chercheront à combattre Israël. Incroyable, hein ?
En plus, il nous avertit déjà bien avant.
Ce qui révèle une fois de plus, et là c'est là qu'on pouvait revenir sur la notion de la conscience, quand la conscience est éclairée, avertie, elle est d'autant plus responsable. Et on revient à cette notion-là. Donc il y aura effectivement cette dernière tentation. Alors, ce sera une sorte de démonstration de l'état de cœur de l'homme. Et là, la Bible est claire. Il y a une grande flèche qui... Alors, vous avez un petit rond et puis un autre dessin qui est écrit à côté, qui commence une dernière période, l'éternité, qui aurait pu être aussi le... Enfin, elle était déjà sur le schéma. Je ne sais pas si vous aviez fait attention. Il y avait un petit tableau qui était création et puis un petit encadré qui était éternité. Et donc, le dernier événement terrestre, ce sera la destruction du ciel et de la terre. Qu'est-ce qui nous est parlé par ciel et terre? C'est tout le système du cosmos, en fait. C'est pas seulement les petits nuages, les cumulus nimbus et la terre toute petite bleue, là. C'est le système existant qui sera complètement dissous. Donc ça, vous pourrez voir ça en deuxième épître de Pierre, chapitre 11. Et à côté de ça, Dieu dit qu'il va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et là, tous ceux qui seront là, ce seront des gens qui auront été blanchis par le sang de Jésus. Hein? Tous ceux qui seront au millénium ne seront pas sauvés. Parce que seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seule la foi en Jésus nous sauve et nous transforme. C'est pas le fait d'avoir vécu 1000 ans tranquille. C'est pour ça qu'il y aura un temps d'épreuve. Satan sera définitivement lié. Christ sera enfin un roi qui n'aura plus besoin d'être un juge. Il sera roi, il sera éternel, il sera ce Dieu. Et enfin, il aura un peuple d'adorateurs en esprit, en vérité, en liberté, en engagement, en consécration. Des vrais adorateurs que le Père demande. Mais il faut qu'il y ait tout ça avant. Pas à cause de lui, hein, mais à cause de nous. Et Dieu sait de quoi nous sommes faits, hein? Dieu. Alors, voilà, c'est en Apocalypse chapitre 21, il est « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la terre et la mer n'étaient plus. Amen. Alors moi, je vous invite à faire une lecture ensemble. C'est la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, et ce sera la conclusion de tout ce que nous avons vu. De Pierre.
J'ai une question.
Oui, profites-en.
C'est au niveau de... Tu l'as dit, corps glorieux, comme les anges.
Ouais.
Mais ça, je ne l'ai pas vu.
Alors, si tu prends note... C'est Jésus qui en parle. Luc, chapitre 20, verset 36. C'est quand il explique que... Quand certaines personnes vont interroger Jésus, qui se met, est-ce que au ciel, la femme de qui sera qui, quoi, si elle se marie cette fois, il se met, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris parce que nous serons semblables à des anges.
Autrement, ce sera pas peut-être le corps sera pareil, mais la gloire sera différente. Parce que les gloires
différentes. Oui, c'est ce qu'il explique en 1 Corinthiens chapitre 15, qui dit que chaque graine donne des fruits différents. Mais en tout cas, nous aurons cette réalité spirituelle d'un corps céleste, d'un corps glorieux. Nous ne serons peut-être pas évidemment semblables aux anges, parce que nous ne sommes pas des anges, mais semblables à eux, au sens qu'il y aurait quand même une réalité quand même, une capacité comme ça à vivre dans le céleste et sur le terrestre. Comme Jésus, quand il est ressuscité, il était à la fois capable de manger du pain, du miel, du poisson, et puis de traverser les murs comme si rien n'était, quoi. Et puis de repartir comme ça au ciel. Et d'ailleurs, quand les disciples sont là, la tête en l'air, il y a deux anges qui viennent. Vous faites quoi là? De la même manière que vous le voyez partir, il va revenir. Et ça, c'est ça, quand il parle de revenir, c'est ici. Hein.
C'est la mission.
Voilà, c'est ça. Et quand on le reverra, on verra vraiment un corps, quoi, un corps percé, etc. Donc, tout le monde est à 2 Pierre, verset 1er, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez de ces choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Là, il parle de l'Ancien Testament et du commandement du Seigneur et sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse? Où est la promesse de son avènement, de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Là, il évoque le déluge. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais les une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec leurs œuvres qu'elle renferme, seront consumées. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite, j'ai envie de dire notre conduite, et notre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les aimants embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irréprochable et dans la paix. Amen. Amen. Dieu a accompli toutes ses promesses. Et celles qui sont à venir, il les accomplira. Qu'elles nous dépassent, que nous les comprenions, que nous les maîtrisions, que nous discutions ou pas, Dieu accomplira toutes ses promesses. Et toutes les choses qui sont à venir ne doivent pas nous faire peur. Si en plus notre cœur est attaché à lui et que nous entretenons cette foi et cet amour, alors il nous enlèvera avec lui dans les cieux et nous reviendrons avec lui pour régner sur toutes ces années. Amen.